Et clairement, il y a des choses qui s'organisent, d'identifier dans ces équipes qui sont les capteurs, qui sont les cafteurs, qui sont les leaders positifs, les leaders négatifs.
Hello et bienvenue sur le podcast People First. Ce podcast invite les leaders positifs de demain à créer des cultures fortes, saines et impactantes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sarah, partenaire chez Teampact Ventures, le fonds d'investissement qui mobilise le sport de haut niveau pour créer des équipes qui gagnent. Chez Teampact, on est convaincu qu'impact positif et performance, ça passe par les employés. Donc on cherche toujours à répondre à la même question. Quelles entreprises seront attirées, recrutées et faire grandir les talents? People First a pour vocation de partager ses apprentissages pour inspirer celles et ceux qui sont convaincus que la culture est un vecteur de performance, de sens et de bien-être. Entrepreneurs, Chief People Officer, experts ou expertes pointues d'un sujet, les invités offrent un regard actionnable et concret sur les leviers people permettant de créer des cultures où chacun et chacune peut exprimer le meilleur. Une question, une suggestion, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse suivante sarah@teampact.ventures. Et si vous appréciez ce podcast, laissez-moi une note sur la plateforme de votre choix. Bonne écoute! Aujourd'hui, pour inaugurer la série Startup Bootstrap du People First Podcast, nous embarquons dans un épisode sur les 10 leviers RH à structurer pour lancer sa startup, avec Calixte Bonnet-Saint-Georges, associé chez Avitio, qui offre des services RH à temps partagé. Après des débuts en tant que développeur, Calixte est rapidement passé dans les RH avec 20 ans d'expérience en tant que Head of People ou Chief People Officer pour des groupes tels que L'Oréal, Elis, Photobox ou encore TripAdvisor, avant de basculer côté startup. En 2021, il rejoint Avitio, une résidence à l'initiative de son associé Henri Delorgerie. Avitio, c'est un cabinet de conseil qui propose des experts RH à temps partagé aux startups, PME et grands groupes pour les aider à se structurer, notamment sur tout ce qui est talent acquisition, RH ou structuration des équipes sales. Cet épisode, il vous apprendra toutes les bases de ce qu'il faut maîtriser pour lancer sa boîte et vous donne des pistes pour en implémenter les premières briques. Hello Calix.
Hello, salut Sarah.
Salut, merci de prendre le temps de discuter aujourd'hui.
Avec grand plaisir, merci d'avoir pensé à moi pour cet enregistrement.
On a discuté ensemble un petit peu des sujets qu'on pouvait regarder et on s'est dit, toi avec Avitio qu'on va décrire juste après, t'as un overview assez intéressant sur les besoins des startups à différents stades de développement en termes RH et people et de structuration tout simplement. De ton expérience avec Avitio, c'est quoi les choses à prendre en compte quand on lance sa startup et les étapes à ne pas louper?
Avec grand plaisir.
Et avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi en tant que personne et ce qui t'a amené à Avitio?
Carrément, donc ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans les RH. J'étais pas forcément destiné à être dans les RH avant puisque je suis un vieux développeur, un ancien développeur. Et donc ça fait 20 ans, je travaillais d'abord dans l'industrie, chez L'Oréal et chez Elis notamment, et puis une dizaine d'années dans les startups. Je suis passé par des boîtes comme La Fourchette, TripAdvisor ou Photobox. De façon très inopportune, non attendue, il y a 18 mois, Henri Delorgerie me propose de monter une boîte avec lui. Donc j'ai d'abord hésité, puis j'ai dit oui. Et depuis 18 mois, on se marre bien. La société s'appelle Avitio Residence et on réussit à envisager le travail différemment, à faire travailler différemment, tant du côté people, du côté des actifs, que du côté des entreprises. On a la ferme conviction que beaucoup de personnes souhaitent travailler différemment, avoir plus de flexibilité, plus d'apprentissage, plus d'échanges. Et du côté des entreprises, beaucoup souhaitent avoir plus de compétences, plus d'expertise, plus d'immédiateté. Donc, c'est un mix de ces deux sujets qu'on a essayé de lancer. On a trois activités. La première, c'est des recruteurs. On essaie de réinventer le métier de RPO, qui est un métier hyper utile et trop peu utilisé en entreprise. On recrute des recruteurs, des talent acquisition.
Pardon, excuse-moi. RPO, juste pour nos auditeurs, RPO, c'est...
C'est des ressources de recrutement outsourcées qui sont dans l'entreprise. C'est Recruiting Process Outsourced. C'est un mot anglais. Et donc, concrètement, nous, on recrute des talent acquisition en CDI chez nous pour accompagner les startups, les sociétés en croissance à délivrer la croissance. On en a aujourd'hui une quinzaine et on a fait une grosse vingtaine de missions en 18 mois. Deuxième partie, c'est la partie DRH. On recrute des DRH expérimentés, des personnes qui ont 15-20 ans d'années d'expérience. Là aussi, pour accompagner les startups à mieux croître, On fait des missions quelques jours par semaine, quelques jours par mois pour tacler des sujets, soit des missions de management de transition, soit sur des projets spécifiques. Et le dernier qu'on vient de lancer, c'est Sales Ops, un métier relativement nouveau et peu connu. On recrute des experts Sales Ops pour améliorer la performance des commerciaux en réalisant des missions, soit sur les outils, soit sur la formation, pour que les commerciaux soient plus performants.
Donc, c'est un sujet organisationnel à la maille Sales Ops, c'est ça?
Ouais, tout à fait, c'est ça.
Quand je parle avec les entrepreneurs, on entend souvent la confusion talent acquisition et RH au tout début. Alors qu'en fait, c'est pas exactement la même chose.
C'est très différent. C'est très différent et alors il y a des exceptions, mais dans la généralité, les bons recruteurs sont rarement des bons RH et les bons RH sont rarement des bons recruteurs. Quand j'ai initié mon pivot vers les mondes des startups, il y a beaucoup de startups qui m'ont proposé d'être leur premier recruteur, premier talent acquisition, de recruter plein de gens et de devenir des RH. J'ai jamais été très à l'aise avec cette démarche, déjà parce que je pense que je suis pas un très bon recruteur. Et c'est deux rôles différents. Aujourd'hui, les talent acquisition, ça ressemble de plus en plus à des commerciaux, des sales, qui gèrent un flux, des pipes, des conversions, de la chasse, etc. Et RH, c'est plus un métier interne dans l'entreprise. Donc ça peut être lié, mais je préfère le délier. Ouais.
J'en profite parce que vraiment, ça, c'est un sujet qui revient très souvent. Donc si je reformule ce que tu viens de dire rapidement, pour toi, une startup qui se lance et qui aurait cette logique de talent acquisition, donc recruteur qui irait vers derrière des RH, c'est peut-être une fausse bonne idée.
C'est oui, c'est dur de dire oui ou non sur cette question-là. Je pense que c'est mieux de différencier les rôles. Et d'ailleurs, quand on crée une société, le CEO ou les deux cofondateurs, les trois cofondateurs, ont tous les rôles dans leur casquette. Recrutement, RH, finance, sales, marketing, etc. Mais même naturellement, dans la tête des gens, ils ont deux rôles différents entre RH et talent acquisition. Donc, c'est bizarre de donner ces deux rôles différents dans une même personne. Et encore qu'il y a des personnes qui font très bien les deux, mais si on fait un mapping, l'immense majorité des gens, je pense, font pas très bien les deux. Et le recrutement, c'est un métier d'expertise. Il faut confier à des experts.
Mmh. Et tu mentionnais le fait que vous avez cette partie donc OK talent acquisition outsourcing de DRH et plus parfois de grands groupes ou RH. Une question que j'aurais à te poser, c'est finalement le monde de la startup, c'est le monde de l'urgence. Est-ce que en faisant appel à des RH de grands groupes, on n'est pas en train de prendre un marteau pour écraser une mouche?
Ça peut. Ça va dépendre de la culture des RH qui ont été ou qui sont en grands groupes. Il y a beaucoup de RH qui ont besoin de stabilité, de projets long terme, mais il y a des RH de grands groupes qui sont très agiles, qui ont besoin d'aller vite. Et comme les startups vont chercher de la structure et de l'anticipation, d'aller trouver des experts qui ont vécu cette structure et cette anticipation, le match peut bien se faire. Là où je te rejoins, c'est qu'il y a grands groupes et startups, ça peut être très différent. L'avantage, il fait un peu de pub pour nous, mais nous, on a un mélange de purs produits startups, des gens qui ont été des RH de startups, et de purs produits grands groupes, des gens qui ont été des RH de grands groupes. Et ce mélange-là fait que ça ajoute une plus-value pour les entreprises.
Mmh. Ouais, donc en fait, selon ton cas de figure, finalement, tu vas pas forcément avoir besoin des mêmes expertises au même moment, et vous avez moyen de jouer un peu sur vos deux jambes, d'une certaine façon.
C'est ça, exactement.
Et juste pour bien comprendre, est-ce qu'il y a une étape à laquelle on a plus besoin d'une expertise type grand groupe? Tu vois, intuitivement, voilà, ma question, c'est une intuition en réalité. Ce serait de dire, au début, où t'es vraiment, vraiment dans une logique d'agilité rapide, structurée très vite. Voilà, t'es très, très focus startup. Et plus tu te rapproches de la scale-up et donc tu as besoin quand même de commencer à processer, avoir plus d'expertise, et c'est un petit peu moins marrant, d'une certaine façon. Enfin, marrant pour les gens qui avaient l'esprit très, très startup. Là, t'aurais peut-être besoin plus de grands groupes. Je sais pas si c'est ton.
C'est intéressant. Ça serait probablement à creuser. Je vais donner un contre-exemple. La première DRH que j'ai recrutée, c'est l'ancienne DRH de Systra, donc société très traditionnelle, adossée à la SNCF, qui a fait sa première mission chez Cajou. Cajou, qui est quand même un pur produit de la Startup Nation, qui est livre des pâtes en 15 minutes, qui était une boîte qui avait 8-9 mois d'ancienneté et qui était déjà une centaine avec les livreurs, il y avait encore plus. Et le match s'est vraiment fait très rapidement parce que cette DRH était en capacité d'être très agile, très autonome et d'utiliser ce qu'elle a appris dans les grands groupes pour le mettre à la mode startup. De façon assez amusante, j'ai demandé au fondateur est-ce qu'il aurait pensé travailler avec Camille s'il avait reçu son CV. Il m'a dit jamais de la vie. Et pourtant, le match a été parfait et la mission a été une réussite. Donc, je suis pas convaincu que le passé des gens soit vraiment primordial et prédominant dans le moment de la startup. En revanche, le mindset des gens, leurs compétences et leur envie, ça, c'est primordial.
En fait, on n'est pas sur, on n'est pas dans le monde de la théorie, on est dans le monde de la pratique. Et dans le monde de la pratique, il faut prendre en compte plutôt un fit quasiment personnel, mais une flexibilité d'esprit aussi, hein, ouais, plutôt que juste la matrice. Ok, qu'est-ce que t'as fait avant, et ça te détermine pour toujours. Et deuxième question en rapport avec cette activité, finalement, quel est l'intérêt de prendre quelqu'un à temps partiel versus recruter quelqu'un à temps plein chez moi, tu vois, quelqu'un sur des missions?
Les deux s'opposent pas forcément. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. En mon sens, le temps partiel, il y a deux grands avantages, deux grandes raisons. Premièrement, acquérir de l'expérience, de l'expertise que l'entreprise ne pourrait pas avoir sinon, soit pour des raisons de budget, soit pour des raisons d'intérêt. Dans ce cas-là, je cite souvent ce que je fais chez Garance et moi depuis quelques années, où c'est une société, une PME de 10-15 personnes. Garance, Hiverno, que je connais depuis longtemps, j'aurais pas pu m'amuser à temps plein chez elle. Et elle avait pas forcément les moyens de me payer. Donc, je travaille quelques jours par mois pour elle. Donc, elle a l'expérience d'un vieux daron pour quelques jours. Et ça, ce type d'exemple, il y en a plein. Et deuxièmement, le temps partiel permet de s'adapter aux besoins. Une startup, ça évolue très vite. Il y a des moments où il y a beaucoup de fonds, beaucoup de projets, et donc on peut travailler intensément. Des moments où ça va être plus light. Il y a la fonction RH, c'est aussi une grande partie d'incertitude, d'urgence. Et d'avoir quelqu'un où on sait qu'on va pouvoir compter sur lui s'il y a une urgence, un peu plus, c'est très utile.
Et donc, quelque part, en fait, t'as pas forcément besoin de quelqu'un qui est là au day-to-day, mais quelque part, t'as besoin de l'expertise de quelqu'un qui peut aussi te reguider au bon moment. C'est la bonne personne au bon moment, mais t'en as pas forcément besoin tout le temps.
C'est ça. Et les RH, c'est une partie de compétences savoir-faire, mais c'est une grande partie de compétences savoir-être. Et le savoir-être, il s'acquiert, il s'améliore avec l'expertise, avec l'expérience. Faire un plan de licenciement économique, c'est pas très compliqué. T'en faire un, ça va. Quand on est à son 10e, son 15e, son 20e, il n'y a pas de secret, on fait mieux.
Ouais, non, mais c'est clair, il y a un effet d'expérience.
Bien sûr.
Au passage, ça me fait penser à dans la série You qui vient de sortir. Enfin, si les gens connaissent, t'as le protagoniste qui est en fait, tu te rends compte que c'est un tueur en série qui dit, premier corps, on n'arrive pas trop à le cacher, le dixième, on y arrive. Enfin, ça m'a fait penser à ça.
Tu viens de spoiler toute la série. Eh bien, c'est ça, exactement. Bien sûr, je pense qu'au dixième corps, on sait comment le planquer et pas se faire choper. Et c'est pareil en RH. Quand on gère un litige, parce que là, on peut faire l'analogie sur le litige, c'est compliqué la première fois, quand on a fait 5, 10, 15, 20 litiges. On sait mieux les gérer, mieux protéger l'entreprise, mieux protéger le collaborateur aussi qui sort pas d'ailleurs. Donc bien sûr, 100% d'accord avec toi. Je valorise beaucoup l'expérience. Et dans tout le débat qu'on a là, on sort du sujet, mais sur les seniors qui sont aujourd'hui sortis un peu d'entreprise, on entend ça dans les médias à 50, 55, 120, ben, je pense que c'est l'inverse. On doit les faire rentrer par ce format temps partiel. Pour eux, pour l'entreprise, c'est tout bénéf.
Oui, c'est du savoir en fait accumulé, de l'expérience et qui se périme pas avec l'âge. Il y a une notion quelque part de tiens, t'as dépassé la date limite de péremption et donc tu pourras pas apporter quelque chose à une entreprise alors qu'en fait c'est des ressources à exploiter en plus en réalité.
Clairement, et ça me rappelle quand j'étais en industrie où les personnes restent 15, 20, 30 ans dans les entreprises, on avait le sujet de la transmission de la compétence parce que des personnes qui sont là depuis 30, 35, 40 ans détenait toute la compétence et on se creusait la tête sur la transmission des compétences sur les profils les plus juniors. Mais ça veut dire que la compétence, elle existe aujourd'hui chez les profils plus seniors, en tout cas plus expérimentés.
Et la tendance de fond, si on regarde un peu le marché, c'est justement, il semblerait de faire de plus en plus appel à des services justement type RH à temps partagé. C'est quoi ta perspective sur le sujet parce que t'es quand même en plein dedans?
Complètement. Et si j'ai créé à Vision une résidence avec Henri et Max, c'est aussi pour chasser mes démons. C'est que j'avais envie, sur une grande partie de cette tendance de fond, de vivre mon métier différemment, de vivre ma relation professionnelle et active différemment, de mieux gérer mon temps, d'avoir plus d'impact, moins d'émotions. Tout le monde parle de la grande démission, ou du big quiet, tout ce genre de choses. Mais c'est que les gens avec un grand G majuscule, ont envie de vivre leur vie différemment. Je suis sûr que le monde de demain sera pas un monde linéaire professionnellement, qu'on aura une partie en CDI, une partie en CDD, une partie en Presta, on montera une boîte, on aura des moments plus off, pour se concentrer sur des projets perso, des voyages, la famille et la carrière de demain, je suis convaincu que c'est celle-là. Et donc ça, c'est la partie gens, mais il faut que ça matche aussi avec la partie business. D'un point de vue des entreprises et de la société avec un grand S majuscule, il y a l'immédiateté qui est là. Tout le monde veut tout tout de suite. On voit même maintenant, les vidéos sont de plus en plus courtes. Netflix estime que son principal concurrent, c'est Snapchat. C'est pas d'autres plateformes parce que les personnes plus jeunes ont envie de tout tout de suite pendant 10 secondes. Et j'en fais partie de ces personnes plus jeunes. Et c'est pareil en entreprise. On a envie d'aller vite, de pas se faire dépasser. Et donc, il faut avoir des ressources en face de ces besoins qui sont disponibles immédiatement.
T'as un peu deux visions. Soit tu dis, bah, moi, mon travail, il doit avoir du sens et je dois être engagée à fond. En plus, c'est les deux ensemble. Et donc, je vais me mettre à 1000%. Ou alors, tu dis, j'ai besoin d'un rapport un peu plus distancié, enfin, à distance du travail. J'entends que t'as déjà quelque chose à me répondre. Donc, vas-y, je sens que...
Je trépigne. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent, je veux travailler dans une société à impact, je veux avoir de l'impact, etc. C'est génial. Je challenge un peu ça. Par mon expérience perso, le moment où j'ai eu le plus d'impact, c'est quand j'ai travaillé dans une usine de traitement du linge qui nettoyait du linge toute la journée. L'impact sur la société, elle est quand même pas énorme de nettoyer du linge. Alors, c'est indispensable pour les hôpitaux, les hôtels, mais c'est pas ça qui va changer la vie. Par contre, l'impact que j'avais moi au quotidien dans mon travail vis-à-vis des salariés, vis-à-vis des ouvriers, j'avais l'impression qu'il était énorme. Et donc, je suis plus à essayer de challenger l'impact personnel des gens que l'impact de la société avec un grand S. Et une collectivité, une communauté, c'est un ajout de personnes, et si toutes ces personnes ont de l'impact dans leur quotidien, ça va forcément avoir de l'impact sur la société avec un grand S.
Ouais, mais tu vois, ça c'est 100% la conviction de Teampact. C'est intéressant parce que nous, au départ, on est vraiment parti de, désolé pour la petite pub, mais on est vraiment parti de la logique d'abord people, donc impact que t'as en interne sur les gens, et en fait, de plus en plus, on a bougé vers l'impact, bougé où notre curseur est allé vers l'impact sur la société, tout en gardant cet ADN initial. C'est-à-dire qu'en fait, nous, notre conviction aujourd'hui, et je sais pas si toi tu la partages, mais c'est, on veut soutenir les leaders positifs de demain. Et pour que ces leaders réussissent à exploser, bah, il faut qu'ils ou elles maîtrisent leur culture d'entreprise et leur levier people. Donc, finalement, il y a ce double enjeu, quoi.
Je plus sois, tout à fait, 100% d'accord avec toi.
C'est super, cool. Sur mon podcast, c'est quand même sympa. Alors, comme on a de la chance de t'avoir, et que t'as une vue un peu d'oiseau, toi, sur les problématiques de différentes startups, à différents stades de développement, ça m'aurait intéressé que tu nous en dises un peu plus sur, OK, c'est quoi les besoins qui remontent le plus à différentes étapes de la vie de la startup?
Alors, il y a plusieurs besoins qui arrivent quand tu montes une startup. Je pousse à chaque fois les fondateurs, les CEO à perdre, en tout cas, à investir un peu de temps avant de se lancer. Pas forcément avant de se lancer dans leur entreprise, mais avant de se lancer dans leur projet. Et si jamais on passe une demi-journée ou même une demi-heure avec un fondateur pour dire « Ok, tu veux faire ça, pourquoi tu veux le faire ? C'est quoi ton financement ? C'est quoi ton agenda perso ? Est-ce que tu as envie de rester dans cette société pendant 20 ans ? Est-ce que tu as envie de faire un exit, une plus-value, sortir pendant 2 mois, pendant 2 ans ?» Ça va déterminer toute la société derrière. Et donc, la première étape indispensable, c'est vraiment de se dire « Qu'est-ce que tu as envie de faire ?» C'est quoi le but premier de ce que tu veux créer? On a envie de se lancer très vite, on a envie d'y aller, on a envie de foncer, se dire qu'on va lever des millions et devenir une licorne. Mais les fondateurs, ou le fondateur ou la fondatrice, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire de leur société? Et ça va déterminer la totalité de la société.
Donc avoir de la... En fait, c'est marrant parce que c'est une question que poseraient souvent les VC, c'est où est-ce que tu te vois dans X années, c'est quoi ta, tu vois, vis-à-vis de ta boîte? En réalité, au-delà de préoccupations de VC, c'est une préoccupation intrinsèque au job d'entrepreneur, quoi. C'est réfléchir à ça dès le départ.
Ouais, et la difficulté, c'est qu'au VC, on va tricher un peu, on va raconter ce que le VC a envie d'entendre, et c'est bien normal, c'est un jeu de vendeur, de marketing, mais comme dans un entretien de recrutement. Quand on est en interne dans la boîte, qu'on est le RH et qu'on peut aller pousser le CEO de dire « Ok, vous êtes là, qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est quoi votre agenda de sortie ?» Va y avoir des réflexions, je pense, un peu plus sincères. Ça veut dire que il faut pas le faire avec le VC, mais ça va être plus profond. Et cette petite introspection, je parle pas de faire du travail pendant 6 mois avec des ateliers, des focus groups, ce genre de choses, mais juste cette petite réflexion, ça peut permettre de débloquer énormément de choses derrière. J'ai travaillé dans des sociétés avec des personnes qui avaient des agendas extrêmement différents, et aussi avec des phases de sociétés extrêmement différentes. Mais j'ai toujours fait attention à me dire, OK, la personne en face de moi, là, le fondateur, c'est quoi son agenda? Qu'est-ce qu'il veut faire? Parce que je reprends l'exemple de quelqu'un qui veut sortir en 2 ans et faire beaucoup d'argent. Ben, on va pas avoir la même stratégie RH que quelqu'un qui a envie de se lancer sur du long terme, ou de se faire acheter par un grand groupe, ou de gérer son ego. C'est chiant.
Tu peux me donner un exemple concret? Parce que, en fait, je le vois en théorie, mais j'ai du mal à me représenter quel impact ça a sur ta stratégie RH, tu vois. Par exemple, les cas de figure que tu as évoqués.
Écoute, je peux te citer des échanges assez forts que j'ai eus avec le fondateur de Brigade, Florent Malbranche, où il avait déjà fait un premier exit, c'était sa deuxième société, et je lui demandais, mais qu'est-ce que tu veux faire de cette boîte-là? Et il m'a toujours dit, et je le crois profondément, qu'il veut avoir un impact fort sur le monde du travail, sur la valeur travail. Il pense, un peu comme je disais tout à l'heure, que le monde professionnel est plus manichéen, un CDI intérimaire, quoi, qu'il y a d'autres formes de travail. Et donc, de savoir ça, bah, ça va permettre de mettre en place une culture RH en interne, vraiment sur du long terme, où en gros, on sera capable, pendant 1 an, 2 ans, de plus faire très attention à l'EBIT, de plus faire très attention au chiffre d'affaires, parce qu'on a un avantage différent sur le marché. Ça va permettre de mettre en place des choses très concrètes pour les salariés, pousser les salariés à aller dans les restaurants. Donc, Brigade, c'est une marketplace de Presta Col Bleu qui avait ouvert la restauration. Donc, de demander aux salariés d'aller faire une mission dans les restaurants, de serveurs, de chefs plongeurs, etc. L'impact financier, il est nul. C'est pas parce qu'un sales ou un marketeur va aller passer une nuit en plonge dans un restaurant qui va développer plus de business. Mais il va sur du long terme comprendre la problématique des prestats, il va comprendre la problématique des restaurants, il va se mettre à la place des gens. Et ça va permettre d'être aligné avec l'agenda du fondateur, enfin des fondateurs en l'occurrence.
Ouais, donc il faut vraiment, en fait, on en revient un peu, c'est la répercussion à l'échelle collective d'une réflexion personnelle, c'est-à-dire quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je défends, il y a mon pitch vers l'extérieur, et puis il y a moi, concrètement, comment évoluent mes réflexions. Là, c'est pareil, et c'est un impact direct sur les leviers que tu vas mettre en place en termes de culture d'entreprise à long terme, en l'occurrence sur ton exemple.
Clairement, et dans l'autre sens, ça peut être aussi plus sur du court terme. Je discutais avec un fondateur, son objectif, c'était de faire une plus-value à 2 ans. C'était ça qui était clairement annoncé. Il avait déjà un peu d'exit, il avait des indicateurs pour se dire, je pourrais vendre à tel horizon. On va moins se concentrer, on va essayer de plus être très actif sur augmenter les chiffres, augmenter les bons ratios, des choses qu'on va pouvoir mettre de côté parce que ça pourra se rattraper derrière pour cet agenda commun.
Et si tu passes justement de... Enfin, tu vois, là, c'est le début, c'est le pourquoi, c'est la première question qu'on se pose. Et ça impactera la stratégie. Qu'est-ce que tu vois dans les étapes d'après? Est-ce qu'il y en a qui reviennent dans toutes les startups?
Donc, quand j'ai préparé le podcast, là, j'ai commencé à parler de la documentation parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et je pense que c'est un sujet hyper central. Et j'ai commencé à dire que c'était surtout dans les boîtes qui n'avaient pas de vrais produits concrets. À l'inverse d'Airbus, quand tu fais un SaaS B2B, t'as pas de vrais produits concrets. Et donc, il faut créer cette documentation. Et en fait, je me suis dit que cette documentation, elle allait être créée pour absolument tout le monde. Même chez Airbus, documenter les process de fabrication, c'est hyper utile. Et de prendre le temps de documenter ce qu'on fait, d'avoir accès à l'information, à la communication au bon moment, c'est indispensable. Et c'est beaucoup plus facile de le faire au jour 1 que de le faire après X années et de rattraper le retard. Pour faire le lien avec ce qu'on disait avant, les gens restent moins longtemps dans les entreprises. Donc, le savoir est moins tangible, il est moins reposé sur machin à la compact qui est là depuis 20 ans. Ça va tourner beaucoup plus. Et donc, on a besoin d'avoir des relais de ce savoir-là. Et à part la documentation, je ne vois pas ce que ça peut être comme relais.
Donc, c'est travailler en fait sur... En fait, l'objectif final, c'est de travailler sur le transfert de compétences et connaissances. Et pour ça, comme on sait que les gens restent pas, on a besoin de documenter. Ça me fait penser aussi à des méthodes comme celle de 360 Learning, à savoir, tu vois, faire des ou clap ou loom, où tu fais des vidéos simplement explicatives et t'as plus besoin forcément de toi être là. Ça permet de répondre au cas de figure où la personne qui était là part, tout simplement, pour garder cette connaissance. Et donc, vous travaillez, vous, sur des sujets d'organisation de la connaissance, tu vois, structurer la façon dont c'est fait
Ouais, complètement. En knowledge management, pour faire un joli anglicisme, on le fait chez des clients, on le fait beaucoup chez nous en interne. Notre richesse, c'est le savoir. Et donc, on a besoin de tout documenter. On en parlera peut-être après, mais on s'est structuré en méthodologie Opal, sorte d'entreprise libérée. Et donc, un des cercles, c'est un des groupes qui s'occupe de ce sujet-là, c'est la librairie, donc la base de connaissances. Et on a vachement réfléchi à comment est-ce qu'on on s'est fait même accompagner par un expert, comment est-ce qu'on structurait le savoir, comment est-ce qu'on le mettait, quel temps on y consacrait, et tout. Et le fait de l'avoir fait pour nous, ça permet de le déployer aussi chez les clients par la suite. Il y a des boîtes qui sont maîtres en la matière. On parle souvent de Alan, dans cette situation-là. Alan, où tout est documenté, la réunion est interdite, tout est public. Ils ont des axiomes très forts sur ce sujet-là. Et je trouve que c'est alors sans Alan va peut-être très loin dans leur démarche, mais sans aller aussi loin qu'Alan, prendre des règles fermes sur la documentation dès le démarrage. Qu'est-ce qu'on documente, quoi, comment, est-ce qu'on y consacre du temps, quelle est la structure de la documentation, c'est hyper important. Toujours tout ce qu'on dit là, le financement, réfléchir à l'agenda, la documentation, c'est dans la perspective que la société fonctionne et soit très grosse demain. C'est sûr que si on est un solo entrepreneur, on a moins besoin de réfléchir à la documentation parce que finalement, on est tout seul.
Exactement. Et je pense que c'est important que tu dises sur quoi on passe du temps ou pas. Enfin, en tout cas, si tu n'as pas dit le ou pas, moi, j'ai entendu en filigrane. Parce que savoir ce qu'on documente, c'est aussi... Enfin, c'est la différence entre la donnée et l'information. C'est-à-dire que pour qu'une information soit accessible, il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus. Donc, d'où la notion d'organiser et de prioriser ce qu'on veut vraiment documenter. Donc c'est un vrai travail de réflexion en fait derrière la documentation. On pourrait tout documenter, comme on pourrait ne rien documenter, mais si on veut qu'on trouve les choses au bon endroit au bon moment, bah c'est un sacré casse-tête.
C'est clair, c'est le job de Google de te référencer. Après il y a peut-être des biais d'algorithmes pour te référencer ce qu'ils ont envie de te référencer, mais au final c'est un outil qui te permet d'avoir accès à l'information qui derrière est pas très bien classée, mais au moins l'information elle est accessible.
Donc, un, connaître sa valeur, ses valeurs et anticiper l'impact que ça peut avoir sur ta construction en tant que startup. Deux, penser très, très vite la documentation avec pour objectif le transfert de connaissances parce qu'on est dans une logique de scalabilité à terme. Comment tu continuerais cette liste à la Prévert ?
À la liste à la Prévert, trois, je ferais toujours dans cet objectif de scalabilité, c'est l'organigramme, l'organisation. J'ai beaucoup paraphrasé ce qu'a dit Émilie de Serena dans un super podcast. Elle dit énormément de choses sur l'organigramme et de réfléchir avec l'organigramme. Elle parle aussi de la structure de l'entreprise. Comment est-ce qu'on s'organise? Comment est-ce qu'on définit les rôles, les postes? Est-ce qu'on est une société sales? Est-ce qu'on est une société revenu? Est-ce qu'on est une société produit, une société tech, une société ops? Tout ça, ça va définir aussi l'organisation. Il y a beaucoup de sujets sur est-ce qu'on met un COO, donc une personne en charge des opérations, est-ce qu'on met en charge une personne des revenus, en charge une personne de marketing. Tous ces sujets-là, ça va structurer la boîte. Et même s'il y a 2-3 personnes, l'organigramme, il peut être fait parce que au final, tous ces rôles sont faits par les 2-3 personnes. Et de faire un exercice hyper régulier, un organigramme à 6 mois, à 12 mois, ça va donner une trajectoire, probablement qui sera fausse. Probablement, l'organigramme qui est fait à 12 mois sera pas celui qui se réalisera, mais ça donne une projection, une direction. Et quand on se repose en disant, attends, on avait décidé le sujet A, au final, le sujet B, qu'est-ce qui nous a amené du sujet A au sujet B et pourquoi? Ben, ça m'a énormément aidé dans la prise de décision. Et là, on est dans le cœur, dans l'histoire centrale. Une mauvaise organisation fait des sociétés qui fonctionnent pas, et l'inverse, c'est vrai aussi, une bonne organisation fait des sociétés qui fonctionnent. C'est pas le seul critère, mais c'est en tout cas un critère indispensable de démarrage.
Oui, en fait, c'est super intéressant, je trouve, la question de l'organigramme, parce que on est quand même sur une idée de fin versus moyen. Parce que, à la fin, on vise quelque chose d'écrit, où on peut visualiser qui fait quoi. Mais ce qui est important, c'est le processus pour y arriver. Et derrière, évidemment, on peut le communiquer. Mais pour arriver à un organigramme, il faut avoir déjà différencié les personnes et les rôles, et les différentes casquettes que ces personnes peuvent prendre. Donc, ça demande une sacrée connaissance de sa boîte et des différents enjeux. Et derrière, effectivement, là, t'es vraiment sur un objectif stratégique de à quoi ça peut ressembler. Tu disais, déjà 6 mois, c'est déjà compliqué. Donc, on n'imagine pas à horizon 1 an, 2 ans. On se demande même pas.
Ouais. C'est un truc que j'ai fait en arrivant chez Avision Résidence. Je me suis dit, fin 2022, on verra à peu près comment on en est. Voilà l'organisation que j'aimerais bien mettre en place jusqu'à fin 2022. Après, j'en sais rien. Il y a trop d'incertitudes. Et là, on s'est posé fin 2022 pour s'organiser jusqu'à fin 2023. Donc, on fait des organigrammes à 12 mois. Je suis pas convaincu de la pertinence d'en faire à horizon 3 ans, 5 ans, 10 ans. Encore que certains pourraient dire que c'est utile, mais sur une startup qui se lance, mollo l'escargot, de toute façon, je dis souvent. J'ai connu des fondateurs ou des CTO qui faisaient des organigrammes. Ah bon, aujourd'hui, on est 7, mais quand on sera 250 développeurs, voilà à quoi on ressemblera. OK, on a peut-être d'autres choses plus utiles à faire, mais déjà, si t'es 7, quel sera l'organigramme quand on sera 10, 12, 15? C'est pas la même histoire. Non, bon, mais tout est dit chez Emily. Hein. Il suffit d'écouter Emily, elle explique tout. bien mieux que moi et bien plus en détail.
Et si tu continues du coup sur sur les dynamiques et les sujets à couvrir.
L'étape d'après, je pense, c'est là, c'est un peu du lobbying, mais c'est structurer la partie RH. Alors financier, il faut structurer la partie financière, market, sales, tout le monde le dira. La partie RH, c'est le cœur du réacteur, c'est le cœur du sujet. Une société, d'autant plus en startup avec du savoir, c'est des people, c'est des gens. Donc de réfléchir, c'est quoi les outils RH qu'on va mettre en place. C'est quoi l'organisation? Est-ce qu'on met en place plutôt des recruteurs, comme tu disais? Est-ce que c'est la même personne qui a tous les rôles? Est-ce qu'on insiste, parce qu'on est dans un marché très concurrentiel, sur la compensation? Est-ce qu'on insiste sur d'autres sujets parce qu'on est internationaux? Tout ça, ça doit se réfléchir en amont. Et là encore, je peux citer l'excellent article référence de Alban, la DRH de Back Market, qu'on pourra mettre, je pense, en dessous, mais qui explique très clairement à quelle phase on peut recruter quelle personne, avec des ratios très concrets. On a souvent la question de on est X, combien je dois avoir de HRBP, combien je dois avoir de learning, machin, combien je dois avoir de trucs bidules. Il y a des grands ratios qui existent et on peut s'en servir. Ça ne veut pas dire qu'il faut les appliquer stricto sensu, mais en tout cas, on peut les utiliser.
Au passage, on a enregistré Alban pour le podcast, donc il n'y a pas très longtemps.
Ben, génial.
Je trouvais ça intéressant que tu creuses le sujet RH. Souvent, enfin, en fait, je vais te partager un truc que j'ai eu récemment avec une startup qui était de dire, ils étaient 20 à peu près. Je sais pas si on a encore besoin d'un profil RH. C'était plutôt un profil qui a une méconnaissance de ce que faisaient les RH concrètement. Et alors qu'en fait, on se retrouvait avec une organisation un petit peu, enfin, tu vois, où il y avait pas mal de choses qui n'étaient pas en place. Qu'est-ce que tu répondrais à cette interrogation, tu vois, même à 20, est-ce qu'on a besoin d'un profil RH et pourquoi en fait?
Un peu comme dans Astérix et Obélix, il n'y a pas de bonne et de mauvaise situation, il n'y a pas de bonne et de mauvaise solution, ça va beaucoup dépendre. Voilà, mon vieux escargot, ça va beaucoup dépendre de la volonté du fondateur des fondateurs. On revient sur l'agenda qu'ils ont. J'ai des fondateurs qui me disent, franchement, c'est hyper facile, moi RH, je le sens bien, je vais le faire tout seul, je prends un apprenti, tout ce que tu fais, je vais le faire. Et il y en a qui disent, moi, je ne sais pas faire. C'est de l'expertise, c'est un métier. J'ai besoin d'avoir de l'accompagnement, de l'aide et tout. Forcément, je suis de l'école de il faut de l'aide et c'est un métier d'expertise. Mais il y a des boîtes qui n'ont pas de RH. On peut citer Blablacar, qui est quand même la référence. Alors maintenant, c'est plus vrai, ils en ont moins. Mais pendant des années, il n'y avait pas de RH. Et même Frédéric Mazzella, pour avoir eu la chance de discuter avec lui, il disait qu'un RH va déresponsabiliser les managers. Donc, il avait tout mis en place pour qu'il n'y ait pas besoin de RH. On a eu un client qui nous a demandé ça, qui nous a demandé de faire une mission pour tout mettre en place pour qu'il n'y ait pas besoin de RH. On l'a fait et ça fonctionne très bien. Donc, ça dépend de la volonté claire du fondateur de ce qu'il souhaite faire. Je pense que ce débat-là sur RH, pas RH, il est valable sur tous les métiers, sur PEG, sur market, sur finance. Est-ce qu'il y a besoin d'un CFO ou d'un RAF dans une boîte? Bah, concrètement, non, le fondateur, il peut le faire. Est-ce que ça sera mieux fait par un expert? J'ai la conviction que oui. Mais si le fondateur est un ancien CFO et qu'il a une structure financière très forte, bah, il va le faire. Donc, ça va dépendre des envies du fondateur, de ses compétences, ce qu'il a envie de lâcher, ce qu'il n'a pas envie de lâcher. C'est pas évident de lâcher le bébé RH, le bébé culture, quand on monte sa boîte. Voilà. Donc, c'est dur de répondre à cette question. C'est dur.
En fait, moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'il faut que le sujet RH soit pensé. Mais quand je dis penser, je ne parle pas du ciel des idées, mais je parle de réfléchir à comment tu le traites dans ton organisation et que derrière, tu l'incarnes concrètement dans des faits, que ce soit par un profil RH ou pas. C'est juste ne pas se dire que c'est flou. Enfin, il ne faut pas que ce soit un truc flou qui ne soit pas adressé.
Tout à fait. Il faut choisir et pas subir.
C'est bien résumé.
Une belle phrase qui veut rien dire.
J'adore entre Molo, l'escargot, je ne sais plus quelle était la deuxième et celle-là. OK, donc commencer, donc structurer son équipe RH ou en tout cas penser le socle RH. La partie managériale, parce que je vois que c'est un sujet que tu voulais évoquer.
Tout à fait. La société, elle est lancée par les fondateurs, elle est réussie par les managers. Et donc, de penser cette fonction managériale, de définir qu'est-ce qu'on attend des managers, c'est quoi les compétences requises, c'est quoi les attitudes requises, les attitudes interdites d'un manager, ça va permettre de déployer la société. On peut pas, quand on est fondateur, tout faire dans une boîte. C'est pareil sur les fonctions RH. Et donc, on a besoin d'avoir des managers forts et les développer, c'est indispensable. Beaucoup de managers dans les startups qui ont grossi, c'est les premiers salariés parce qu'ils ont grossi avec la société. Il faut quand même se poser la question de est-ce que la personne est un bon manager ou pas, un bon ou un mauvais chasseur. On pourrait faire la même analogie, mais est-ce qu'elle est capable de faire développer ces personnes, de déléguer, de coacher, d'accompagner. C'est une question à se poser et c'est aussi une confiance du CEO, du fondateur, de laisser une partie de la responsabilité à des personnes leaders dans son organisation. Et la confiance, elle est souvent contrôlée. Donc, si on a identifié qu'est-ce qu'on laisse aux personnes et qu'est-ce que j'entends de ces personnes-là, ça va être beaucoup plus facile de lâcher le sujet.
Mmh. Donc, très clair. En plus, je trouve qu'on reboucle avec le sujet organisationnel rapidement parce que, en fait, t'as plusieurs strates. T'as à réfléchir à qui, enfin, comment on organise les équipes. Donc, s'il y a des managers, à quel niveau ils se situent, où elles se situent et comment on travaille. Ensuite, il y a les personnes, leurs compétences individuelles, l'envie parfois de faire monter des gens en interne parce qu'ils sont là depuis longtemps et qu'on a juste besoin de monde qui puisse manager des équipes sans forcément faire le contrôle qualité. Enfin, voilà, c'est un peu brut de découpage comme terme, mais voilà. Et derrière, tu disais développer les gens, c'est qu'il y a une notion de potentiel derrière et d'investir des ressources sur le fait de faire monter en compétence ces managers.
C'est plus facile de former quelqu'un à une compétence qu'on souhaite plutôt que d'aller la chercher en externe. On a plutôt tendance à aller la chercher en externe parce qu'on est sûr, entre guillemets, de la compétence de la personne, comme elle l'a déjà fait chez une autre entreprise ou parce qu'on a une référence ou ce genre de choses. Mais on revient sur le sujet de la formation, c'est hyper rapide de former quelqu'un sur la compétence et on va pouvoir maîtriser la compétence qu'on transmet plutôt que d'aller chercher à l'extérieur. Si je continue, il y a un sujet qui est très souvent porté par les RH, assez peu par les fondateurs, c'est l'écoute des salariés. Il y a eu pendant le Covid un petit buzz sur Balance ta startup. Si on regarde au final l'ensemble de ce qui était mis, c'est un manque d'écoute des salariés. Tout ce qui a été mis sur Balance ta startup, ça aurait dû être sorti au sein des entreprises. Et donc, de passer du temps pour écouter les collaborateurs et donc d'avoir les bons relais, parce que le fondateur, il peut pas écouter tous les salariés. Hein. J'imagine Doctolib, c'est une expérience qui va écouter les 2000 personnes, ce serait pas possible, mais d'avoir les bons relais pour laisser l'écoute, d'avoir des relais RH, des relais de représentants du personnel, des relais de managériaux, tout le monde ait de quoi s'exprimer et de différencier l'écoute micro, ce qui est un peu le lien avec un micro. Quoi. Je suis en face avec quelqu'un, je suis disponible, informel, j'acquire l'information et je laisse la possibilité à l'autre de s'exprimer. Et l'écoute macro, j'ai de la data, NPS, je sais l'évolution, la société va bien, à tel endroit ça va bien, ça va pas bien, etc. Mon souhait, c'est que ce sujet-là soit plus porté par les fondateurs que par les RH. Et c'est rarement le cas.
Et concrètement, pourquoi, selon toi?
Parce que tôt ou tard, il y a une espèce de distance qui se prend entre le fondateur et ses équipes. Et c'est normal, c'est naturel avec le temps. On n'a plus accès à l'information des équipes. Et pour autant, quand on est fondateur de sa boîte, qu'on est là depuis 2, 3, 4, 5 ans, on a l'impression, on a la sensation d'avoir toujours accès à l'information. Parce qu'on a les bons relais, parce qu'on a machin qui est là depuis le début, qui nous passe les infos. Mais c'est une information biaisée, c'est une information très très haute et pas forcément très basse. Et de laisser la possibilité de remonter l'information, c'est très important. Un fondateur peut penser que son produit est génial et résout une problématique hyper indispensable parce qu'il fait la solution A. Et en fait, les gens au service care, ils entendent que les clients, ils ont envie de la solution B toute la journée. Et donc, de repasser du temps à écouter les gens, ça permet d'améliorer la société sur le business, sur la culture sociale, sur l'entraide, sur l'empathie, sur l'engagement des collaborateurs, surtout. On a tous envie d'être écoutés. Regarde, tu m'écoutes là.
Et en plus, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on n'est même pas sur une logique de posture. On est sur quasiment, tu vois, le fait de, c'est une question de stratégie parce que, ou d'organisation ou de penser le truc, parce qu'en fait là tu dis à juste titre, en tant que fondatrice ou fondateur, on pense que on entend, on sait ce que les gens nous disent parce qu'on a depuis le début, il y a quelqu'un qui nous remonte l'info. Mais en fait, il faut être capable de prendre du recul, être un peu, enfin, je sais pas si c'est schizo, mais de te dire, en fait, là, faut que je mette des relais qui sauront me sortir les infos au bon moment et qui pourront me remonter les infos dont j'ai besoin pour prendre des décisions derrière et dérouler. Ou pour responsabiliser les équipes, d'ailleurs.
Et clairement, il y a des choses qui s'organisent, d'identifier dans ces équipes qui sont les capteurs, qui sont les cafteurs, qui sont les leaders positifs, les leaders négatifs, de mapper tout ça pour aller chercher l'information au bon moment. J'ai beaucoup fait en usine, ça. En usine, t'as toujours peur du risque syndical, des grèves, du blocage, de l'accident, de tout ça. Et donc, d'avoir accès à l'information, c'est important. Et pour autant, quand t'es un cadre dans une usine où t'as 500 ouvriers, bah, t'auras pas accès à l'information de la même manière. Donc, t'as besoin d'avoir les bons relais pour avoir le tout au bon moment. Et je reviens sur cette histoire de posture. La posture, elle est indispensable parce que si jamais tu discutes à quelqu'un, tu sais que dans tous les cas, ça va servir à rien. Tu sais qu'il est borné, qu'il est, bah, ça va être plus compliqué que si tu sais que ce que tu vas dire sera entendu, mais enfin, sera écouté, mais aussi entendu. Et ça, c'est, on en entend tous les jours dans les médias, le fait que le gouvernement a pas d'écoute, bah, c'est probablement la posture. Enfin, c'est pas pour faire la politique, mais c'est une histoire de posture.
Ouais. Non, en fait, il y a la notion d'action derrière. Après, tu vois, il y a entendre, écouter et agir. Et parfois, l'action est pas perçue de la même façon selon où tu te places. Donc, par exemple, les surveys employés, c'est très bien. Mais si derrière, on a l'impression que on a fait remonter un pain point énorme, même dans les surveys, et qu'il se passe rien, au bout d'un moment, on perd confiance dans ces surveys-là. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on critique les surveys à certains moments.
Et parce qu'on n'a pas le retour de l'information. Mais c'est, je suis mille fois d'accord avec toi. Il faut qu'il y ait les actions et le retour d'information sur les surveys qu'on fait.
Mmh. Parce que là, on n'est même pas sur la logique que j'avais au départ, qui était logique organisationnelle. On est sur, moi, fondatrice de startup, il faut que j'aille regarder, OK, qui va me donner la bonne info? Et comme tu disais, avec ton mapping, là, positif, tu peux, capteur et
capteur et capteur. Et c'est drôle parce que ce que je dis, je le vis au quotidien. Tu vois, ça fait 18 mois, on est 35 personnes. Il y a des gens qui rentrent dans l'équipe, je connais un peu moins, versus les premiers. Je me violente, je me force de temps en temps à dire, attends, ce que tu dis au fondateur, applique-le toi-même. Je passe un peu de temps à aller parler aux personnes, à avoir accès à l'information, à identifier, tiens, lui, il est plus capteur ou cafteur. Enfin, cafteur, en gros, c'est celui qui va te cafter l'information, donc qui va te remonter l'information. Et le capteur, c'est celui qui va descendre l'information pour toi. Donc, c'est dans un sens ou dans l'autre. Et de savoir ça, de savoir tes relais de communication. Si tu passes une information à machin, comment est-ce qu'elle va descendre? Si tu passes une information à tout le monde, est-ce qu'elle va être comprise? Voilà. Je peux te donner juste un exemple très, très concret, pratico-pratique, sur le remboursement de la téléphonie. Sujet bateau, tu vois, sans impact. Moi, je suis convaincu que ça ne sert à rien. On a tous aujourd'hui des forfaits illimités, 4G, 5G, data illimité, etc. Et c'est tous nos forfaits. Et en plus, le réseau, c'est notre vie, donc on a besoin d'avoir accès à son numéro de téléphone. Donc, je suis plus partisan, moi, il faut pas rembourser les téléphones. Ça ne sert à rien. Parce que dans tous les cas, tout le monde l'a déjà. C'est un coût supplémentaire. Donc, j'avais mis ça en place au début. Et puis, on m'a dit que c'était une connerie. Qu'en fait, c'est important pour certaines personnes parce qu'on utilise des fins professionnelles, etc. Bah, j'avoue que la personne qui me l'a dit, c'était aussi le bon moment, la bonne personne en qui j'avais confiance, mais ça m'a fait un tilt en disant, attention, il faut écouter. Il faut écouter les équipes et pas monter dans sa tour d'argent.
C'est aussi savoir à qui tu fais confiance, c'est ça qui est important. Enfin, sans dire qu'il y a une espèce de confiance à géométrie variable non plus, mais c'est intéressant que tu m'aies dit c'était la bonne personne au bon moment aussi. Si on parle de donc je sais que tu en avais une dizaine et qu'on n'a pas beaucoup de temps non plus, donc j'aimerais bien quand même qu'on termine sur tes différents conseils histoire de vraiment faire la boîte à outils de base de l'entrepreneur.
Ouais, il y en avait un sur la formation. On en a un peu parlé sur la formation des managers. Et on peut dire que la formation, c'est pour tout le monde. La formation, c'est la cinquième roue du carrosse. Tout le monde en a envie, mais personne ne sait trop ce que fait. Mais réfléchir à comment est-ce qu'on forme les collaborateurs, comment est-ce qu'on les accompagne, comment est-ce qu'on travaille sur leur employabilité. Aujourd'hui, on reste plus 30 ans dans une entreprise. On reste 2, 3, 4 ans, voire moins. Et comment est-ce qu'on fait pour que la personne qui ressort de l'entreprise ait amélioré son employabilité? Ça, c'est une réflexion. Juste pour parler d'un point qui va, je pense, plus parler, c'est les salaires, la grille des salaires, le positionnement, les budgets. Les erreurs du démarrage vont se répercuter toute la vie. Quelqu'un qui est embauché trop cher ou il y a trop d'écart de salaire, ça va être très compliqué à rattraper. Et donc là encore, quand on crée sa société, c'est de réfléchir à quel est le poids d'un poste, quel est son impact, comment est-ce que je le paye, c'est quoi les bonus, est-ce qu'il y a les BSPCE, oui, non, comment est-ce que je les valorise. Je reçois des decks en disant, il y a les BSPCE, tu mets 10 euros, la probabilité que ça fasse 10 milliards d'euros, la voilà, parce qu'on va lever des... Comment est-ce que tu communiques ça, oui, non. C'est réfléchir à sa structure salariale dans l'entreprise, d'autant plus si on est une boîte à vocation internationale. Comment est-ce qu'on fait les différences de cotation? Là, il y a des très bons outils qui existent. Tout n'est pas inventé, mais c'est plutôt des choses à prendre et à recopier plutôt que d'inventer.
Oui, et puis sur les salaires, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, tu as envie de te dire, je prends les personnes que j'arrive à avoir et je parle avec elles de leur expérience passée. Et comme tu viens de le dire, ça peut être une grosse erreur en fait en termes de stratégie salariale, parce que ça crée un écart avec soit des personnes qui sont déjà dans ton entreprise, parce que ça sait à force les salaires, en réalité les gens parlent, soit avec les futures personnes que tu recrutes. Et pareil, si tu vas trop bas. En fait, c'est vraiment le genre de sujet un petit peu casse-binette, pour ne pas dire casse-gueule, ou si tu réfléchis pas assez tôt à ta logique plus globale plutôt que personnelle, alors, tiens, j'ai vraiment besoin de recruter cette personne, tu vas avoir des problèmes.
Il y a aussi un peu d'ego. Quand on se dit, si la personne me rejoint, c'est pas pour l'argent, c'est pour le projet, pour ma vision, pour ce genre de sujet. C'est vrai, mais c'est pas que vrai. Sinon, on est une association à but non lucratif, caritative, bénévole. Si les gens rejoignent une entreprise, c'est aussi... et peut-être surtout pour gagner de l'argent. Et donc, on peut difficilement casser un prix parce que c'est une boîte à impact, parce que c'est une boîte enfin, je le dis justement à vous connaissez largement ce secteur. Et c'est un peu le cas, je trouve.
Hyper intéressant. Et ton numéro 10, alors, parce que...
Mon numéro 10, c'est peut-être le plus important. J'aurais dû le mettre en premier parce que les gens sont épuisés, ils ont tous droppé. C'est de baradiner. C'est un fondateur, un multi-entrepreneur qui m'a dit ça et ça m'a vraiment fait switch dans mon cerveau. C'est il faut investir sur le futur. C'est pas parce que tu dépenses 50, 100, 200 000 euros que ta boîte elle va foirer. Alors il y a des histoires de cash bien sûr. Il faut déjà avoir cet argent, 50, 100 000 euros. Il y en a beaucoup qui aimeraient l'avoir, mais trop souvent il y a des sociétés qui disent lui je vais l'embaucher à 50, je vais lui faire une offre à 48. Parce que je gagne 2000 euros. Les 2000 euros, en fait, c'est du perdu. C'est un gars qui avait monté sa première boîte, il a vendu, deuxième boîte, il l'a foiré, troisième boîte, il l'a réussi et il dit, si ma boîte, elle fait 100 millions d'euros de CA, c'est pas les 100 000 euros que j'ai investis au démarrage qui vont faire la différence. Négativement. Par contre, ça peut faire la différence positivement. C'est valable sur les salaires, mais c'est valable sur absolument tout. Maxime, je lui rends hommage sur les outils. Dès le démarrage, il m'a dit, prends tel outil. Moi, j'avais deux clients, on me proposait HubSpot à 70 balles par mois. Je disais, ça me sert à rien. Et aujourd'hui, je suis bien content d'avoir mis HubSpot dès le démarrage. Et donc, c'est vraiment ça. C'est pas ça qui va faire la réussite de l'entreprise. Mais ça peut faire sa perte. Ou l'inverse, c'est pas ça qui va faire la perte, mais ça peut faire sa réussite. Pas dans quel sens il faut le dire, mais.
En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on demande quand même vachement aux entrepreneurs de bootstrapper, d'être capable de faire beaucoup avec rien, avec des bouts de ficelle. Tu vois, c'est un peu l'esprit, si tu gages de l'argent, et là toi tu le, en fait tu penses plus à la logique d'investissement et la logique de taille aussi, enfin, c'est-à-dire si moi ma boîte demain je veux qu'elle fasse X millions, faut bien que j'investisse à un moment. Mais c'est vrai qu'il y a un équilibre à trouver parce que si je les ai pas au départ et que c'est la dèche, faut que je fasse des choix et faut que je, tu vois.
Mais bien sûr, le but c'est pas de burner comme ça a été le cas en je sais pas 2018-2019 où tout le monde avait plus de notion de l'argent. Il faut être cash efficiency, il faut faire attention au ratio, mais c'est juste une histoire culturelle. Je suis pas sûr que les grands patrons soient des grands radins. Tu vois, Bezos, ça m'étonnerait qu'il radine sur des post-it.
Oui, en fait, c'est les économies de bout de ficelle.
Ouais, c'est ça, bien sûr, exactement.
C'est ton exemple de 48 000 au lieu de 50 000. Là, tu te dis un peu, mais qu'est-ce que ça change? Et ta culture, là, pour le coup, ton économie, elle est de 2000 euros, mais peut-être que tu perdras la personne et qu'un recrutement t'a coûté beaucoup plus. Donc,
Tout à fait. Et il y a des économies utiles à faire sur les frais, les expenses, sur les frais de déplacement. Maintenant, plus personne voyage en première, ça devient même bizarre de voyager en première. Donc là, c'est sûr qu'il faut faire attention aux coûts. Mais il y a des coûts qui sont de l'investissement. Et de temps en temps, moi, j'ai des discussions lunaires sur aller économiser 5% sur un contrat, ce qui au final va faire 350 euros d'économie sur l'année. Enfin, on a passé 3 jours en négociation, tu vois. Juste pour ça, alors que tout le monde aurait gagné du temps à faire autre chose. Donc voilà, c'est vraiment essayer de voir loin. On revient sur cette histoire de réfléchir avant d'agir, en fait. Tout est ça. Hein. De passer quelques secondes en disant, tiens, l'euro, je vais investir. D'ailleurs, c'est un indicateur que vous suivez, nous les fonds, c'est de se dire, est-ce que l'euro qui est investi, combien est-ce qu'il rapporte? Mais ça veut dire qu'il faut bien investir cet euro.
Ouais. Et derrière, il faut être capable de le mesurer. C'est aussi un des problèmes qu'on a en RH et dans plein d'autres sujets. C'est que tu peux chiffrer le coût d'un recrutement, mais c'est moins tangible que d'autres indicateurs, tu vois, très, très, très concrets. Donc, nous, c'est aussi un élément qu'on cherche à beaucoup plus prendre en compte chez Teampact. Dans la performance, il y a l'investissement que tu mets dans tes gens, qui te permet d'avoir de la performance, mais qui est peut-être moins facile à chiffrer à un instant T. Mais bref, on y travaille et je pense que c'est un sujet absolument passionnant.
Moi, ouais, il y a des ratios qui existent, hein. Il y a des KPI qui te permettent de dire c'est quoi l'impact des différents jobs aujourd'hui, l'impact d'un RH. Tu peux le suivre par le churn, par le temps de recrutement par rapport au secteur du marché.
Oui, 100%.
Un bon recruteur, est-ce que c'est parce qu'il te recrute 30 personnes ou est-ce que c'est parce qu'il te recrute 20 qui vont rester pendant 5 ans? Tout ça, c'est des choses que tu peux mettre sur la table.
Ça m'intéresserait d'avoir ta perspective un petit peu. Tu vois, si tu devais prendre un de tes conseils ou une de tes pratiques, à laquelle tu donnerais le plus de visibilité, si tu le devais, et pourquoi?
Laquelle, je pense que ça serait vraiment sur l'organisation d'entreprise, parce que de ça va tout découler, en fait. On n'a pas la même organisation selon les agendas qu'on a, selon la culture. Est-ce qu'on veut beaucoup de relais hiérarchiques ou est-ce qu'on en veut très peu? Est-ce qu'on veut une organisation flat ou une organisation très verticale? De penser à ça à aujourd'hui 6-12 mois, c'est la pratique la plus importante et c'est une pratique qui se fait pas tout seul dans un coin. C'est une pratique qui se fait avec un RH. T'imagines, j'allais pas dire l'inverse. Mais les RH vont apporter une couleur, une visibilité, un challenge, un benchmark qui sera aussi indispensable à l'organisation d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain.
Bah écoute, franchement, cet épisode c'est une mine d'or. On avait envie d'ouvrir chacune de tes boîtes et d'en faire un épisode entier. Donc c'est bien parce que tu m'as donné de l'inspiration pour la suite.
Avec plaisir.
Et voilà, c'est dans la boîte. C'était important pour moi de faire cet épisode parce que quand on lance sa startup, on parle beaucoup d'enjeux externes comme monter son produit, être fort dans l'exécution, etc. Ce qui est hyper important. Et on néglige parfois un peu l'aspect interne, donc celui de la culture. J'espère que vous aurez apprécié cet échange autant que moi et que ça vous permettra de commencer sur des bases saines. Et si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à me laisser un maximum d'étoiles sur la plateforme de votre choix.